Code für Lost die Premiere. De Père Marie-Dominique Philippe, le 10 novembre 1999, à Saint-Jordan.
J'ai du mal. C'est normal hein, d'avoir du mal quand on entre en métaphysique. J'ai du mal à comprendre ce jugement d'existence sur l'ami comme point de départ de la métaphysique. Cela pour plusieurs raisons. Très bien. Il faut réagir. C'est la première année que je commence par l'amitié. Donc je vois que ça porte ses fruits. Dans la mesure où vous réagissez, ça prouve que vous avez compris quelque chose, mais qu'en même temps, il y a une difficulté. Quand on ne réagit pas, ça vous... va comme je te pousse. Ça y est. D'abord, l'ami n'est ami que pour moi, où se trouve donc l'objectivité d'une telle expérience. Vous voyez, j'ai dit l'existence de l'ami. Je n'ai pas dit l'ami. L'être de l'ami. Je n'ai pas dit l'ami. Et tout est là. L'ami comme ami est une modalité de l'être. Tout à fait d'accord, il est très singulier, il n'y a rien de plus singulier qu'ami. Tous les autres sont universels, mais l'ami est singulier, tout à fait d'accord, c'est mon ami. C'est l'avoir. Et cet avoir est. Que l'ami soit l'avoir le plus parfait, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il existe. Il n'est pas mis dans le coffre-fort. Vous pouvez mettre votre avoir dans le coffre-fort, mais pas l'ami. Ah, tiens, c'est vrai, je n'avais pas pensé que l'ami n'est pas dans le coffre-fort. Marqué, je pourrais le mettre dans le coffre-fort, et puis j'irai lui rendre une petite visite tous les jours, et puis entre deux, poum. Comme la favorite. La favorite était dans un coffre-fort, très beau, un petit coffre-fort. Quand vous visitez un palais arabe, c'est extraordinaire. Vous voyez la favorite. L'évêché d'Oran était un ancien palais. Et il y avait encore le lieu de la favorite. L'évêque me l'a montré, c'est de ce temps. Et on venait lui rendre visite, où elle sortait avec des gardes. Et puis le reste du temps, on garde mon avoir. Mais ce qui est très ennuyeux, c'est que l'ami existe. Ce qui explique que de temps en temps, il n'est pas fidèle. S'il m'appartenait, il serait tout le temps fidèle. Comme le petit toutou. Qui lui-même aussi n'est pas toujours fidèle. Mais plus facilement. Il n'y a pas de liberté. Alors si vous lui donnez vraiment un ange tous les jours, où il sera d'une fidélité extraordinaire. Donc voyez, ça qui fait que l'ami, c'est vrai, il existe pour moi. Mais ce n'est pas le pour moi que je regarde, c'est qu'il existe. Et que je connais l'être par l'ami. L'être m'est devenu très proche par l'ami. Pas aussi proche que moi. Mais puisque l'ami c'est un autre moi-même, ah tiens, l'ami est un autre moi-même. Mais cependant, il n'est pas moi par son exister. Alors son exister par l'amitié est devenu tout proche. Et donc, il y a ce privilège que je suis et ceci est, tiens, tout d'un coup, se rejoignent. C'est extraordinaire. L'ami est un autre moi-même. Donc, je suis en lui. Et en même temps, il est autre. Ceci est l'ami. Il est mon ami. Donc, le jugement d'existence, ceci est, rejoint le jugement d'existence, je suis. Alors là, vous êtes coincé. Vous êtes obligé de dire, tiens, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, c'est ça qui est le propre du jugement d'existence de la vie. Donc, première objection, d'abord, l'ami n'est pas n'est ami que pour moi. D'où l'objectivité d'une telle expérience. Où se trouve l'objectivité d'une telle expérience? Parce qu'il existe. Et l'objectivité d'une telle expérience est donnée dès que je regarde l'ami en tant qu'il est. En outre, l'objet de la métaphysique, c'est ce qui est, en tant qu'il est, oui. Or, il me semble que l'expérience de l'ami me met en présence de ce qui est, en tant qu'il est, bon. N'est-ce pas partir d'une manière d'être plutôt que de l'être dans son aspect radical? C'est sûr, vous pouvez rester sur la bonté de l'ami et vous pouvez aussi regarder son existence. J'ai dit que c'était l'expérience de l'être la plus forte que j'ai. Quand je me regarde, c'est subjectif. Quand je regarde l'ami, c'est objectif. Et je retrouve pourtant la qualité de la subjectivité, il est un autre moi-même. C'est sûr que l'ami, je peux le regarder en tant qu'il est bon, je suis tout à fait d'accord. Il est bon, mais sa bonté existe. Ce n'est pas une bonté idéale, ce n'est pas une bonté imaginaire, il est bon pour moi. Il est d'une telle gentillesse pour moi que la bonté transcendante devient immanente grâce à l'ami. Donc, vous voyez, la même chose. Je peux regarder l'ami en tant qu'ami, je peux regarder l'ami en tant qu'il est bon, je peux regarder l'ami en tant qu'il est. Et c'est évident que c'est le jugement d'existence de l'ami que je regarde. De plus, et c'est toujours la même objection, la confusion entre être et modalité d'être. De plus, dire tu es là est affirmer ainsi la présence actuelle de l'ami, oui. N'est-ce pas un jugement qui porte sur le lieu plutôt que sur l'acte d'être? Ça dépend. Pour vous, peut-être, cette présence est tellement éblouissante que vous ne voyez que sa présence. Mais je dis, mais sa présence exprime qu'il est là. En effet, en disant cela, tu es là, j'affirme l'existence de l'autre à tel endroit, de même qu'en disant « tu es mon ami », j'affirme une manière d'être qui présuppose un jugement d'existence sur l'acte d'être de l'ami. Je peux aller plus loin en disant « je suis Jésus et Dieu ». J'affirme ainsi une manière d'être de Jésus qui est précisément sa divinité. Oui, mais vous n'avez pas l'expérience de la divinité. De l'être, vous avez l'expérience, ceci est. Et là, ça ne marche pas. Ce serait trop facile comment voulez-vous nier l'existence de Dieu si vous avez l'expérience de la divinité ? L'expérience immédiate. Tu es Jésus d'abord, pour le philosophe, est un personnage historique. Jésus a été dans ce monde. Il a été là dans ce monde. Pour le philosophe, pour le chrétien, Jésus est présent. Il est au-delà de la limite du temps. Parce qu'il est Dieu, il est éternel. Mais ça, vous ne pouvez pas dire au point de vue philosophique. Vous n'avez pas l'expérience de l'éternité, au point de vue philosophique. Vous avez l'expérience d'un être qui est dans le temps, dans le présent. J'affirme ainsi une manière d'être de Jésus qui est précisément sa divinité. Bref, j'ai du mal à comprendre qu'il faut un jugement d'existence qu'il peut, un jugement d'existence autre que ceci est ou je suis. Donc, si vous avez du mal, un jugement d'existence en dehors de alors, n'existe que ce qui est inférieur à vous. Et vous revenez donc, à la place de regarder l'être, vous regardez le ceci. Exactement comme l'ami. Je ne regarde pas l'ami. À travers l'ami, je saisis l'être. Parce que cet ami existe. Et que son existence actue. Cet ami, il est. Et je peux, dans le jugement de mon ami, il est, regarder son être, au-delà de ce lien d'amitié, par où il y a une similitude entre nous. Il y a une qualité entre nous, mais il y a quelque chose de plus profond, il est. Et son être, c'est justement ce qui est irréductible. Oui. Dans une perspective phénoménologique, vous ne regardez que l'ami, le vécu de l'ami. Le vécu de l'ami n'est pas l'être. Vous n'avez jamais le vécu de l'être. C'est curieux, mais c'est comme ça. Vous avez le vécu de l'avoir. De l'avoir. Vous n'avez pas le vécu de l'être. Quand vous dites ceci est, vous regardez une réalité qui vous échappe, qui est au-dessus de vous, qui est irréductible avec vous. Alors, vous voyez, la difficulté de quelqu'un qui ne regarde dans l'autre que son être, sans voir la différence entre l'autre qui a telle qualité et qui, par sa qualité, est semblable à moi, et donc, avec ça, j'ai un pont avec lui, et puis je dis, je le connais cet autre, il est semblable à moi. Quand vous dites ça, vous ne regardez pas son être, vous regardez sa qualité. Mais vous pouvez regarder aussi son être, parce que l'ami, il a telle qualité, et il existe avec cette qualité. Comme moi-même, j'existe avec cette qualité. Nous nous retrouvons là. Mais l'être montre qu'il est autre. L'être de l'ami n'est pas vécu par moi. Qu'est-ce qui est vécu par moi dans l'être de l'ami ? Sa similitude avec moi. Il a tel défaut, cet ami. Quelle était la défaut, hein, point de vue métaphysique, hein. C'est un accident. Alors, je le retrouve tout à fait. Ah, je vois son orgueil. Ah, c'est extraordinaire. C'est exactement le mien. Alors, je sais qu'est-ce qu'il chatouille. Parce que je sais très bien qu'est-ce qui chatouille mon orgueil. Alors, je vais le chatouiller un petit peu, on va voir s'il va réagir. Puis il réagit exactement de la même façon. Oh, je vois très bien sa jalousie. Je la connais. Oui, si on est un peu lucide avec soi, on comprend très bien ça. Et puis on comprend. Franck, il est. Il y a quelque chose d'irréductible en lui. Il est autre que moi dans son existence. Autrement, il ne serait pas l'ami. Si je ne regardais que la similitude de l'autre, il y aurait la fusion. Dans la qualité, on est un. On est un, non, on n'est pas un. On est formellement unis. On n'est pas un. On n'est pas un. On est deux dans notre existence. Oui. Alors, je reprends en un instant, vous voyez, pour dire pourquoi je prends l'amitié. C'est parce que l'expérience de l'être, je l'ai ou en moi ou dans un autre. Je crois que ça, c'est facile à comprendre. Il y a une troisième expérience de l'être qui n'est plus philosophique. Quand j'affirme, il est nécessaire qu'il existe un être premier que les religions appellent Dieu. Je n'ai pas l'expérience. Mais je conclus cela par une démonstration. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Là, vous avez trois jugements d'existence. Je suis, ceci est, il existe un être premier. Cherchez bien, vous n'avez pas d'autre. C'est déjà suffisant, hein, parce que moi, c'est très très intime. Ceci est, c'est absolument universel. Hein. Ceci est, ceci, c'est tout ce qui est, c'est ceci. Donc même l'ami fait partie de ceci. L'ami est. La différence, c'est que ceci, que ceci dans l'ami est tout proche. Je le rejoins. Alors que d'habitude, dans le ceci, matériel, temporel, un autre vivant, je vois l'autre aussi. Mais, je crois que nous pouvons tous être d'accord que l'expérience de la réalité de l'être la plus parfaite, c'est dans l'homme. Et c'est ça que je pars comme raisonnement, c'est pour ça que je vous le redis. C'est vrai, je n'ai jamais une expérience de l'être plus parfaite que à l'égard d'un autre homme. C'est pour ça que l'homme m'intéresse toujours. Dire que l'autre ne m'intéresse pas, c'est triste. Ça prouve qu'on n'a pas compris du tout ce que c'était que l'être. N'importe quel individu. Et plus il est étranger à moi, plus il m'intéresse, d'une certaine manière, au plan métaphysique. Il est autre. Donc, c'est l'homme qui est source pour moi de l'expérience la plus parfaite de l'être. Alors, ça a toujours les mêmes inconvénients. Hein. Le ceci est à l'immense avantage que ceci est neutre. Tandis que l'ami n'est pas neutre du tout. Ceci étant neutre, il met en pleine lumière et c'est l'avantage. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner ceci est. Il ne faut jamais l'abandonner. Même avec l'être de l'ami. Parce qu'il a cet avantage-là. Il n'a personne d'autre ne l'a. Ça tente très bien d'avoir bien saisi ce caractère merveilleux du ceci est. Il est neutre. Et n'est jamais neutre. C'est le verbe. Il ne faut pas s'abstraire. Est toujours concret, toujours singulier. Vous n'avez jamais saisi l'être dans l'universel. Dans l'universel, qu'est-ce que vous saisissez? Un être de raison. un être qui provient de votre intelligence, que vous avez créé. La seule chose que vous créez, c'est l'universel. Alors, que l'universel vienne à votre aide. Quand vous êtes dans la misère, vous criez l'universel, l'universel. Mais non, je viens de toi. Si tu es malheureux, je suis malheureux. Je te suis. Je suis ton acolyte. Et rien de plus. Tout mon être, je l'ai de toi. Être de raison. La seule chose que vous créez, c'est l'universel. Parce que l'universel, c'est d'être de raison dans toute sa fraîcheur. J'allais dire, dans toute sa naissance. L'être de raison, l'universel. Cherchez, touchez l'être universel. Hein. Essayez de le toucher. Vous ne pouvez pas avec la main. Non. C'est trop chaud. Parce qu'il vient de vous. Vous ne pouvez pas toucher l'être de raison. L'être universel. Pourtant, intérieurement, vous savez très bien ce que c'est. Homme, nature humaine, c'est universel. Si l'universel n'existait pas, il n'y aurait pas de science. C'est la clé. Il n'y aurait pas de science, il n'y aurait pas de mathématiques, il n'y a rien. C'est la création de l'universel qui est la condition sine qua non pour qu'il y ait la science. Facile à comprendre. La logique n'existerait pas s'il n'y avait pas l'universel. C'est l'universel qu'on regarde tout le temps en logique. Donc, c'est l'être le plus familier qui soit. Alors, est-ce que l'universel est conventionnel? Posez-vous la question. Si l'universel est conventionnel, toute la science est conventionnelle. La science ne repose que sur l'universel. Intéressant de savoir ça. Non. Il faut donc bien distinguer l'être de raison de l'être conventionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un être conventionnel ? Conventionnel, vous le trouvez le mieux dans la question de mode. On a décrété que cette année-ci, on reprendrait des grands chapeaux. Qu'est-ce qui a décrété ça? Un comité économique, parce que les chapeaux ne se vendent plus, il faut les refaire vendre. Parce que bon, c'est quand même quelque chose d'important. Ça coûte cher, un beau chapeau. Donc, conventionnel, on va lancer ça. Grasset, l'éditeur Grasset, il y a quelques années, a dit, je peux, étant donné la force de la propagande, de la réclame, je peux, comme je veux, comme je le décrète, faire que tel roman, qui est pas mal, soit le roman de l'année et du siècle. Je me souviens quand il a décrit ça, on le retient, ces choses-là. Extraordinaire, hein? La puissance de la propagande dans notre monde d'aujourd'hui. Ça prouve combien peu d'hommes savent juger au-delà du conventionnel. C'est extraordinaire, ça. Un éditeur est le culot de dire ça. Il l'a dit, et je crois que c'est tout à fait juste, je suis persuadé que c'est juste. Parce que les hommes, aujourd'hui, jugent en fonction de leurs voisins. C'est ça, le conventionnel. On a dit ça, on propage ça. C'est conventionnel. Ça ne repose plus sur la réalité, sur le jugement d'existence, mais c'est on dit cela, on a dit cela. Le conventionnel, c'est ce qui est commun pas l'universel, hein, ce qui est commun à une certaine communauté. Mais la vie, c'est le conventionnel, la mode, c'est le conventionnel. Alors l'universel n'est pas une mode. L'universel repose sur la nature humaine, la manière dont l'intelligence humaine connaît. On ne peut pas l'enlever. On ne peut absolument pas l'enlever. Tout le langage repose sur l'universel. Toute la science repose sur l'universel. C'est ma manière propre de penser. L'ange, Dieu, est-ce que Dieu pense universellement? Posez-vous la question. Est-ce que la science pénètre en Dieu? Dieu peut se servir de mon langage, donc quand Dieu se sert de mon langage humain, il se sert de l'universel. Mais ce n'est pas sa parole. C'est sa parole pour moi. Mais ce n'est... C'est conventionnel dans ce sens que Dieu s'incline jusqu'à moi et puis prend ma manière de parler, prend ma manière d'exprimer les choses. Mais ce n'est pas Dieu. Mais il faut être très très précis là-dessus. C'est pour ça que la signification divine de la parole de Dieu échappe complètement à toutes les remarques philologiques. Il y a un secret de Dieu qui est au-delà. Et il y a en même temps un conventionnel dans la parole. Là, c'est sûr. Dans tel milieu, on parle comme ça. C'est la critique la plus sévère que peuvent faire certains quand on veut imiter et qu'on n'est pas dedans. Il dit, ah, s'ils étaient dedans, ils ne diraient pas ça. Ils en reconnaissent tout de suite. Alors, première affirmation. L'existence, l'expérience que j'ai de ce qui est la plus forte dans l'homme que j'expérimente. C'est l'homme, et ça je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus, c'est l'homme qui est l'être le plus parfait que je peux expérimenter. Évidemment, parmi les hommes, je mettrai des niveaux, c'est sûr, mais c'est l'homme. C'est évidemment tel homme. Je n'expérimente que tel homme, je n'expérimente pas l'homme. Ça, c'est l'universel. L'universel, vous ne l'expérimentez pas. Vous, intellectuellement, vous le pensez. Je peux penser ce que c'est que l'être de raison, je peux penser ce que c'est que l'universel. L'universel, c'est une relation de raison. C'est une relation comme être, et c'est une relation de raison. Alors, d'autre part, l'homme, je le connais parfaitement que quand il est mon ami. Donc, pour entrer en métaphysique, j'ai deux portes. Ceci est, qui est toujours là, ceci est, et puis l'ami est. Et je vous avais dit que je faisais ça pour être le plus proche possible de la phénoménologie. Aristote n'aurait pas fait ça. Mais pour moi, la phénoménologie est ce que Platon a été pour Aristote, la phénoménologie l'est pour moi au point de vue philosophique réaliste. Je fais ma philosophie en présence de phénoménologues qui affirment ceci est, ceci c'est la même chose. Alors je prends tout de suite l'ami. Est-ce que c'est la même chose de dire l'ami est? Ou dire l'ami. Hein? Là, ils sont bec dans l'eau. Quand vous dites ceci et ceci, est-ce que c'est la même chose? Pour eux, c'est la même chose. Ils restent uniquement dans l'appréhension. Et l'appréhension devient l'opération intellectuelle la plus forte qui soit. Alors je dis, la seule opération parfaite de l'intelligence, c'est le jugement. Ceci est. Et ramener ceci est à ceci, c'est ne pas accepter que le jugement dépasse l'appréhension et que la réalité est mesure de ma pensée. Et c'est comme ça que ma pensée est vraie, parce que je suis en conformité avec la réalité. Tandis que si ceci et ceci est la même chose, c'est ceci qui devient la mesure de ma pensée. Alors ceci existe ou n'existe pas. Puisque c'est la même chose, ceci est ceci. C'est la même chose, l'ami est ou l'ami n'est pas. Ou l'ami, c'est l'ami. Uniquement dans ma pensée, dans mon rêve. Et aller jusqu'au bout du réalisme. Il faut aller jusqu'au bout du réalisme, surtout quand on est en présence de la fémologie. Autrement, un jour ou l'autre, vous balancerez du côté de la fémologie. C'est tellement plus séduisant de mettre l'homme mesure de toute chose. Ça a déjà été dit dans l'Antiquité. L'homme mesure de toute chose. C'est tellement plus agréable de tout ramener à moi, à la place de tout ramener à Dieu. On a fait une bascule là, terrible entre les deux. Alors, je continue. Alors, continuez, hein, si vous avez des objections, si ce que je dis ici ne suffit pas pour vous, continuez d'objecter intelligemment. Il y a d'autres questions, je ne réponds pas aujourd'hui, je répondrai demain pour qu'on puisse avancer. Alors je vous disais la dernière fois que l'ami est. C'est l'expérience d'être que j'ai dans l'ami qui est l'expérience d'être la plus immédiate et la plus forte. Parce qu'elle est objective, elle est au-delà de moi. Elle est objective, et cependant, la subjectivité est très forte, puisque l'ami est un autre moi-même. Et vous voyez, je vois très bien, quand je dis l'ami est un autre moi-même, attention, il n'est pas moi dans son existence. Or, l'existence n'est pas accidentelle pour l'ami. Et donc, ce qu'il y a de plus secret dans l'ami, son être, ce qu'il est, c'est pas moi. Ça, je peux très bien le saisir. Hein. Et la présence de l'ami, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique à la fois que je considère dans l'ami ce qui est le plus proche de moi, la similitude, et en même temps son irréductibilité à moi. Autrement, il ne serait pas présent. Il serait tout simplement assimilé à ma pensée. Il ne serait pas l'ami qui existe en face de moi. Donc il ne serait plus présent. La présence de l'ami, implique son existence irréductible à la mienne. Et donc, à ce point de vue-là, il me donne une expérience de l'être totalement différente que la mienne. Et je dis bien totalement différente. Dans son être, L'ami est autre que moi. Dans ses qualités, ah, il peut être semblable à moi. Il a la même forme d'intelligence. Et parce qu'il a la même forme d'intelligence que moi, je dis qu'il est très intelligent. S'il avait une autre forme d'intelligence que la mienne, je dirais oui. Il est très intelligent, c'est sûr, il est intelligent, mais je comprends très difficilement ce qu'il veut. Il a une manière de s'exprimer, une manière de connaître les choses, d'aborder les réalités, qui est totalement différente de la mienne. C'est vrai, c'est ça. On a rencontré comme ça, alors, et on ne sait pas étonnant, il est de tel pays. Il est russe. Je vais raconter cette histoire du jour de Guillary de Gaudy, le grand scout de l'éternel Guillary Gaudy, que j'ai rencontré à propos d'un novice, c'est un novice dominicain, russe, émigré. Il était un scout merveilleux avant d'entrer dans l'ordre. Alors, il y avait une marche très des routiers où c'est tous en retard. Alors, c'est Guillary Gaudy qui m'a raconté ça. Il m'a dit, alors j'ai donné à chacun ses spécialités pour que ça aille le plus vite possible. Il faut que ça aille très vite. Hein. Alors, Pierre, ce novice, toujours premier pour le feu. Il a dit, alors, hein, ce soir, un feu numéro 1. La spécialité, toujours premier, puis ça marche. Puis alors, il dit, je vais avertir tous les autres, leur donner à chacun leur charge. Au bout d'une demi-heure, je reviens auprès de mon Pierre. Je croyais voir un feu extraordinaire. Qu'est-ce que je vois? Mon Pierre avec deux silex. Tu m'as dit un feu numéro 1. Il faut le prendre à la source. Il a dit en voyant, vous voyez, pas toujours commode, hein. Il y a différentes, numéro un, différentes manières de le regarder. Prendre la source, c'est vrai. Un feu numéro un, il faut prendre la source, deux silex. Alors vous voyez avec ces deux silex, attendant qu'il y ait une flamme. Je trouve ça merveilleux comme exemple, hein. Surtout que c'est vrai, hein. Et quand c'était dit par Guillary Gaudy, ça avait son charme. C'est quelque chose d'assez étonnant. On doit découvrir, à partir donc de l'ami et de ceci est, l'ami est pour moi ceci est, de la manière la plus parfaite, la plus étonnante. Mais je comprends très bien que de l'ami, je reviens ceci est, tout le temps. Je ne sépare pas. Et je pose la question, première question de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'être? La métaphysique naît dans mon intelligence à partir de cette interrogation. Et on comprend très bien que Aristote, en face de Platon, est-ce que la République de Platon est-elle un livre métaphysique? Aristote a été 20 ans chez Platon. C'est quelque chose quand même, 20 ans, à partir de 18 ans. 20 ans. Première question, qu'est-ce que c'est que l'être? Qui est-ce en grec? Qui est-ce? Qu'est-ce que l'être? Se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est de voir la détermination de l'être. Est-ce que l'être qui est commun à tout ce qui est, n'est-il pas au-delà de la détermination? Alors quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Sérieusement, hein, que vous y réfléchissiez. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce qui est premier dans l'être ? Premier dans l'ordre de la détermination, dans l'ordre de la forme. Qu'est-ce qui est premier ? Je peux me poser la question indéfiniment, hein, c'est pas commode, à des coups, ça. Alors, je prends l'homme exprès, l'ami, et je veux dire qu'est-ce qui est premier ? Dans la détermination de l'ami. Là, vous voyez tout de suite la différence. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est premier dans la détermination de l'ami ? J'ai dit la présence. Oui, la présence. C'est vrai. L'ami a une présence que personne d'autre n'a. Il est présent. Et quand je n'ai pas vu un ami depuis longtemps et que je suis très pris par quelque chose d'autre, par quelque chose de très ennuyeux, qui m'accapare entièrement, une très grosse difficulté, l'ami dit, mais quoi, tu n'es pas présent ? Vous avez déjà entendu ça, tu n'es pas présent ? Et on répond, je suis pris parce que j'ai une préoccupation terrible, je ne suis pas libre. Et on n'est pas présent. On n'est pas présent à l'ami. Alors, c'est une présence quand même, celle-là. Puisque c'est la plus grande des présences. C'est la plus forte des présences. Pour que l'ami soit présent, il faut que je pense entièrement à lui. Que je sois tout entier tourné vers lui. Si je ne suis pas entièrement à lui, au point de vue de la connaissance, qu'il y a une idée qui m'encombre, quelque chose de très ennuyeux, je ne suis pas présent. Et ça, il le détecte tout de suite. Un autre ne le détectera pas, parce que quand vous saluez des grandes personnes, des personnes que vous ne connaissez pas, vous les saluez, très bien, très bien. Une poignée de main, très bien. On dit un tel monsieur, très bien. Vous n'allez pas prendre votre carnet, un tel monsieur, ah, je vais écrire votre nom, votre adresse. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça. Il y avait la personne qui saluait, puis il y avait toujours quelqu'un qui suivait. Et la personne qui suivait, c'était de prendre le nom de la personne, son renseignement, où elle habitait, pour qu'elle soit mise dans l'enregistre. C'est vrai, quand vous saluez quelqu'un de très illustre, que vous ne connaissez pas, vous êtes tout attentif à lui, vous ne faites pas attention. Mais l'acolyte, celui qui suit, est là pour prendre l'adresse. C'est pas très poli, mais c'est comme ça. Parce que vous déclarez qui vous êtes, non pas pour qu'il vous donne votre adresse. Vous déclarez qui vous êtes pour qu'il soit présent. Et que vous puissiez le voir. L'adresse, c'est second. C'est pas premier. C'est intéressant de voir ça. Si on est présent à la personne qu'on vous présente, on est tout entier à elle. On dit, je suis heureux de vous connaître, parce que des tas de souvenirs viennent, tas d'images viennent, et se résument là, devant la personne qui est là. Hein? Au fond, on ne le dit pas, mais je ne m'imaginais pas du tout que vous puissiez être comme ça. C'est curieux. Je ne dis pas en bien ou en mal, mais je ne m'imaginais pas du tout. Et c'est presque toujours comme ça. C'est très rare qu'on s'imagine, vis-à-vis de quelqu'un dont on a beaucoup parlé, qu'il soit vraiment comme ça, non. La réalité individuelle est toujours unique. Elle nous frappe toujours. On est présent par la connaissance. C'est très important de comprendre que c'est la connaissance qui rend présent et qui fait que je connais quelqu'un. Et par là, je peux ensuite me rappeler, je ne dis pas me l'imaginer, mais me rappeler qu'il est comme ça. La phénoménologie, c'est ce rappel. Ce n'est plus l'expérience, c'est ce rappel. C'est le connu. et je demeure dans ce connu. Et vous voyez que demeurer dans ce connu, c'est demeurer dans son image. Forcément, chaque fois que je connais quelque chose, il y a une image. Qu'est-ce que je retiens? C'est la signification de cette image. Mais c'est ça que je retiens, c'est l'image. Et je reste dans cette image. Ce n'est pas son exister, ce qu'il est profondément. Ça, j'en ai pas d'image. Vous n'avez pas d'image de l'être de votre ami. Mais vous avez une image de sa physionomie, de sa présence. Un être est présent à vous en raison qu'il est là et qu'il a une certaine physionomie. Vous voyez, le visage, ça demeure. Le visage de quelqu'un qui est mon ami. C'est la figura. La première détermination que nous voyons et qui reste inscrite en nous, c'est sa figura. Alors, la figura, c'est très difficile à préciser du reste. C'est pour ça que je prends tout de suite le point de vue de la présence. Quand quelqu'un m'est présent, il y a une physionomie. Mais la physionomie n'est pas la figura. C'est l'effet, c'est la conséquence. La physionomie. La figura d'un paysage. D'un très beau paysage, il y a une présence. C'est ce qui rend présent, c'est la figura. La figura, c'est l'ensemble des déterminations, du relief, des abîmes, des cours d'eau. C'est ça la figura. Et dans la physionomie humaine, c'est l'harmonie du regard, de la forme, le masque, donner une figura chez les Grecs pour jouer un rôle, mettez un masque. Et nous avons chacun d'entre nous un masque qui est naturel, notre physionomie. Et nous faisons, notre physionomie change. Avec la souffrance, avec les luttes, avec les joies, ça change. Avec la maladie, quand vous voyez la figura de quelqu'un qui a beaucoup souffert, vous dites, ah oui, on voit bien la souffrance, la blessure. C'est très frappant, ça. Et ça se voit. Et c'est pas seulement un trait, c'est l'ensemble, c'est l'harmonie. La figura, la physionomie joue un rôle très important dans le point de vue de la présence. Et très facilement, on restera en présence de cette présence. C'est la figura qu'on gardera. Même si la personne a parlé, a dit des choses très intéressantes, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui m'a impressionné le plus, qui a fait que cette personne était présente à moi? C'est sa physionomie, c'est sa figura. Je crois que c'est la première question et qui reste commune, c'est ça qui est intéressant, qui reste commune avec la philosophie réaliste et la phénoménologie. C'est la présence de quelqu'un, sa figura. Mais la phénoménologie reste en face de la figura qu'elle garde. La philosophie réaliste par la figura sera en présence de l'ami qui est. Et c'est très curieux cela et c'est très important de voir que la première détermination de l'être, pour moi, c'est la figura, la physionomie, le visage, qui me donne sa présence. et dans le visage son regard, la plupart du temps. C'est le regard de quelqu'un. Il y a des regards morts, il y a des regards vivants. Ça ne veut pas dire toujours que celui qui a un regard vivant est très intelligent, non. Et ça ne veut pas dire du tout que celui qui a l'air d'avoir un regard mort n'est pas intelligent, non. Il y a une différence. Parce que la physionomie est toujours un masque. Qui est un masque trompeur. Ou un masque qui permet de pénétrer plus avant. Mais c'est un masque. C'est curieux. Tous les êtres vivants ont une physionomie. Le petit crapaud. Il a sa physionomie. Et une manière d'être. Une manière d'être dans sa totalité et à travers la quantité, à travers les qualités. La physionomie de quelqu'un, c'est une quantité de choses multiples. Vous voyez, un artiste saura, à la différence du pur photographe, il y a des photographes artistes. Ce sont ceux qui jouent avec la lumière. Et il y a l'artiste qui joue avec la lumière. Quand vous voyez Rembrandt qui se peint lui-même, sa physionomie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je crois que la première détermination que nous avons quand nous posons, qu'est-ce que c'est que l'être ? Chez le vivant, chez l'homme, c'est sa présence, sa physionomie, qui joue un rôle très grand, et que pour la phénoménologie joue un rôle capital. Vous êtes en présence de quelqu'un.